Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Jean, un texte que vous connaissez bien, Jean chapitre 1, et nous lirons les versets 35. Jusqu'au verset 42. Jean chapitre 1, verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, mais que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon Pierre, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son père Simon et qui lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, loin de Christos. Et il le conduisait vers Jésus. Jésus l'ayant regardé lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Au centre de la rue Pédonie, il y a un tout petit musée, un musée assez modeste, qui est dédié à la présence lors de la Seconde Guerre mondiale des soldats néo-zélandais. Il y a énormément les Américains, les Zélandais, les Australiens, en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on passe sur la route principale, il y a quelque chose qui est écrit sur la façade de côté. Et voilà ce qu'il est dit. Ce que nous connaissons est peu de choses au regard de ce que nous ne connaissons pas. Ce que nous connaissons est peu de choses au regard de ce que nous ne connaissons pas. Et je crois qu'il en est ainsi dans la vie chrétienne. Nous évoquons après tout à l'heure les questions en rapport avec cette question, la connaissance de Dieu, la connaissance pratique du Seigneur dans le cadre de notre vie spirituelle. Ici, pour ce qui concerne la lecture que nous avons faite, la scène se passe au Jourdain, comme nous avons pu le comprendre, où Jean le Baptiste baptisait des foules qui venaient à lui en prenant. Tout Jérusalem et les régions environnantes sont touchées par ce phénomène. Le peuple d'Israël en a l'impression qu'il est dans une véritable ébullition, on dirait sur le plan spirituel. Dieu visitait son peuple. À tel point que les responsables religieux de Jérusalem, les pharisiens et autres religieux, envoyèrent quelques-uns d'entre eux pour aller s'enquérir de la personnalité de cet homme. Il semble faire un tapage médiatique au bord du Jourdain. Qui est cet homme? Là, ces gens-là arrivent et ils posent des questions. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu celui qui doit venir? Et Jean leur dira, je ne suis aucun de ceux-là. Je suis simplement la voix de celui qui crie dans le désert. Et là, à cette occasion, eh bien, Jésus va se présenter. Il y a un moment où, de manière particulière, un homme va entrer en scène et c'est Jésus. Et cet homme-là, eh bien, va se présenter devant Jean afin qu'il soit baptisé. La suite du récit, nous apprend ce qui se passe. On va dire que les projecteurs sont dirigés maintenant vers Jésus. Et là, ici, Jean, en voyant Jésus passer, le présente comme étant l'agneau de Dieu. Alors, comme nous l'avons lu, certains de ses disciples entendirent ces paroles et se mirent à suivre Jésus. André, l'un d'entre eux, va donc chercher son père Simon et il annonce avoir trouvé le Messie. Il décida ensuite de le conduire à Jésus. Il y a tellement d'événements pour penser. 3 4 le premier chapitre de l'évangile de Jean, le quatrième, mais évidemment, c'est en rapport avec le récit de la Samaritaine, dont nous en fait part tout à l'heure et bien notre siècle. Pour un juif, nous avons trouvé le Messie. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point ça devait être quelque chose d'extraordinaire d'entendre dire, d'écouter, nous avons trouvé le Messie. Je ne sais pas si on s'imagine un petit peu cette scène. Cette joie, cette stupeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée du Messie a été prophétisée 800 ans, 8 siècles auparavant, au travers de la bouche du prophète Isaïe. Et ce prophète, ce Messie, cette voix a été attendue de génération en génération. Et là, eh bien, ils s'entendent dire que le Messie est présent dans la présence de Jésus. Alors, on a bien sûr, je le disais tout à l'heure, de peine à s'imaginer ce que cela pouvait représenter pour nous. L'on pourrait dire aussi, à la lecture de ce récit, que cette rencontre s'est faite, on pourrait croire, par le plus grand hasard. Mais y a-t-il du hasard avec Dieu ? C'est vraiment en lien avec le récit de la Samaritaine, de Jean chapitre 4, au début de l'évangile de Jean, il est dit qu'il fallait que Jésus passe par là. Et ensuite, le récit nous apprend que Jésus va rencontrer et bien cette Samaritaine. En tout cas, l'on peut essayer aussi de s'imaginer la réaction de Simon lorsqu'il s'entend dire de la part d'un Messie, d'un rabbin, qu'il ne connaît pas encore, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Cephas, Cephas, qui signifie Pierre. Alors, comme vous le savez, dans la tradition juive, eh bien, comme tradition, beaucoup d'autres nations aussi, le nom, le prénom en tout cas, n'était pas donné au hasard. Son choix était lié à un parent, à une situation, à un événement, à une circonstance particulière ou à un changement de statut. L'on peut penser à Abraham, père élevé, qui deviendra Abraham, père d'une multitude. Samuel, qui veut dire tout simplement, eh bien, Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Jean, Johannes, le Seigneur fait grâce. Bien évidemment, Jésus, le Seigneur sauve, etc. Alors, le regard en tout cas que Jésus porte sur Simon se projette à l'avenir. Il savait ce que serait la vie de cet homme, qu'il appellerait plus tard à son service. De même, Dieu connaît tout de nous, notre passé, notre présent, notre avenir. Car Dieu est de toute éternité. Tu t'appelleras Pierre. Et au travers de cette simple annonce de la part de Jésus, eh bien, il y a tout un programme en perspective, en prévision pour lui. Mais avant qu'il devienne cette Pierre, ce roc, Simon, devra apprendre bien des choses. Car c'est à lui que Jésus, et aux autres qu'il confiera plus tard, une lourde responsabilité. Celle d'être dans un premier temps ses témoins, d'organiser et de conduire ensuite l'église naissante. Ils en seront les piliers, Christ étant la pierre angulaire. Excusez-moi, j'ai la bouche un peu pâteuse, je cherche à vous. Pierre, comme nous le savons, nous découvrons dans les évangiles, eh bien, fera partie des 12 que Jésus choisira après une lutte de prière. Ce seront, de manière générale, des hommes simples pour nous, avec des caractères et des capacités, des défauts différents. Mais comment le Seigneur les a-t-il choisis ? Sur quels critères de sélection ? Le Seigneur, d'ailleurs, avait dit plus tard, dans Jean chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai envoyé. » Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. En tout cas, Dieu sait toujours ce qu'il fait. Même Judas faisait partie des 12, accomplissant ainsi les anciennes prophéties concernant la trahison de Jésus. Le plan de Dieu, comme l'a rappelé tout à l'heure notre sœur, le salut prévu de toute éternité, est bien de s'accomplir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, dit Dieu, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pendant près de 3 ans, les disciples seront à la plus grande, la plus belle des écoles, l'école du Christ. Je ne sais pas si vous auriez voulu faire partie de cela, de ces heureux élus. Ce n'est pas très facile, hein, de vivre un petit peu comme un SDF, parce que Jésus avait par moi et par vous. Ils profiteront de l'enseignement de ce maître, pas comme les autres, un rabbin parfait. Ils le suivront, sur les chemins poussiéreux de la Palestine et seront les témoins privilégiés de son amour pour les peuples, de son autorité sur la maladie, sur la nature, sur la loi et sur les démons. Et nous devons dire qu'en fin de compte, ils en apprendront plus sur Dieu et sur eux-mêmes durant ces quelques années avec le Christ que durant sur le royaume, que durant tout le reste de leur existence. En tout cas, une mission extraordinaire les attend et dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Ils sont peut-être partis dans l'autre direction, je pense. En tout cas, Pierre et les autres, le Seigneur doit les préparer à la tâche difficile qui les attend, et 3 ans c'est tout. Voilà un peu pour le cadre général. Un peu long, mais c'est pas grave. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous êtes représenté Pierre jusqu'à présent. C'est de lui qu'on va parler particulièrement. Vous savez, quand nous étions beaucoup plus jeunes en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si ça s'est fait il y a très longtemps cela, nous allions ici et là en Nouvelle-Calédonie et nous allions passer le film de Jésus de Nazareth. Vous l'avez connu pour les plus anciens? Et c'était super. Hein, donc là, on avait une petite idée de ce que c'était. Ben, Jésus, on nous montrait ce bébé, un véritable mannequin, avec des doigts de canis très longs, etc., très fins, etc., les cheveux ont les yeux bleus. Bon, les juifs, en général, ils n'ont pas ces yeux-là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est pas le tableau que nous dressent les évangiles. En tout cas, c'est pas grave. Mais Pierre, je me souviens, c'était un peu bourru, là. Hein, les cheveux un peu comme ça, il avait une grosse barbe. Voilà. Hein, on s'imagine un petit peu, on a des idées parfois qui sont fausses, mais on a un certain nombre d'idées sur le personnage, la physionomie de ces personnages, hein, notamment concernant les disciples, les 12. Alors, c'est peut-être dans le style un peu barbu, baroudeur, en tout cas c'était un baroudeur, Pierre. Pierre, c'était un fonceur. Mais ce côté fonceur va lui jouer parfois des tours. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, et les autres, je ne sais pas. On peut s'imaginer un tas de choses. En tout cas, ce que j'aime, c'est que la Bible ne cache rien, n'enjolive rien concernant les serviteurs de Dieu et ses servantes. Tout est mentionné, on les découvre avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais les clichés que nous avons sont parfois tenaces concernant ces personnages. Hein? Qu'est-ce qu'on retient de Thomas? Le Seigneur, bien sûr. Mais Thomas, c'est pas que ça. Non? Thomas, c'est quoi? C'est incrédule. Mais que retient-on de l'apôtre Pierre, de Simon Pierre? Le Seigneur. Il a évoqué cette question-là. Et dans notre pensée, c'est un peu ça. Mais leur histoire, son histoire ne s'arrête pas là. Hein? Fort heureusement. Pour lui comme pour nous aujourd'hui. Hein? Nous sommes passés peut-être aussi par des phases analogues à celles qui ont été traversées par les disciples. En tout cas, ce que nous pouvons réaliser, nous apercevoir, c'est que nous avons bien des ressemblances avec eux. Et nous allons nous attarder quelque peu sur Pierre avec quelques arrêts sur image. À suivre un petit peu son cheminement, ses pérégrinations, et ça nous permettra aussi de, je l'espère, et bien d'être encouragé peut-être dans notre vie spirituelle. Je disais tout à l'heure, Pierre, Jacques et Jean, c'était le trio qui était dans l'entourage toujours immédiat du Seigneur. Mais ce que l'on réalise lorsque l'on lit les évangiles, c'est que Pierre, parmi les apôtres, on a l'impression qu'il est un petit peu le personnage central. On a l'impression. Quand on dit prêtre, attention, il n'y a pas que lui, mais il y a lui et les autres. En fait. Toujours sur le devant de la scène, toujours en action. En tout cas, lorsque je vois la biographie de Pierre, en tout cas, ça, bien, j'ai le sentiment que c'est un personnage quand même qui est très attachant. Je ne sais pas si c'est votre sens. Alors, quelques clichés sur lesquels je passerai rapidement. Si on pense à la pêche miraculeuse, ils vont vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et là, alors qu'ils ont pêché toute la nuit, ils reviennent, le Seigneur est bien, il dit, écoute, donne la barre, on va enseigner, puis après, tu retournes vers le large, et puis tu jettes tes filets. Les Syriens ont empêché de faire. Ils connaissaient son boulot, hein, Pierre. Ils connaissaient la théologie de Nazareth, de l'idée. Mais, Seigneur, eh bien, sur ta parole, je jetterai mon filet. Et là, il va prendre conscience que celui qu'il sert, celui qu'il suit déjà depuis tout un temps, c'est vraiment un personnage de Dieu. Et il va être tellement surpris, Pierre, qu'il va tomber sous une conviction de péché. Et là, ici, eh bien, ça fait partie des éléments, ça fait partie des expériences bénies, des expériences extraordinaires qu'ils vont vivre avec le Christ. Il y a ça, il y a la multiplication des pains, des poissons, etc. Donc, ça sera des choses formidables qu'ils vont vivre pendant un certain temps avec le Seigneur. Sur la montagne aussi, vous vous souvenez, la montagne de la Transfiguration, Pierre. Je parle des choses sur la montagne, après je descends en bas dans la vallée, dans la seconde Baptiste. Eh bien, c'est Pierre, Jacques et Jean. Et là, c'est la Transfiguration, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et là, eh bien, Pierre, Jacques et Jean encore. Ils sont toujours dans les bons coups, les trois, hein, dans les bons moments. Et les moments très, très importants, comme ce fut le cas plus tard dans le jardin de Gethsémani. Et là, eh bien, suite à tout cela, Pierre, il est tellement ébahi, il est tellement heureux, il est tellement renouvelé. On peut le réaliser. Il y a Moïse et Élie qui sont apparus, qui s'entretiennent avec le Seigneur. C'est des moments incroyables, quoi. Mais, Seigneur, il est bon que nous dressions trois tentes ici. Il veut vivre, hein, ces moments. Il veut les faire perdre. Mais il est temps pour eux. Et bien, avec le Seigneur, et bien de redescendre dans la vallée. Alors, je pense aussi à notre événement, c'est toutes les choses que vous connaissez, mais il est bon de la rappeler. Sur le lac de la nuit, vous vous souvenez, quand le Seigneur, et c'est d'ailleurs après la multiplication des pains et des poissons, il a dit de traverser le lac, et il les rejoindrait. Et alors, quand ils sont en pleine nuit, et bien Jésus, bien la rencontre, ils ont l'impression de voir que c'est un fantôme. Il marche sur les eaux. Et qu'est-ce qu'il dit Pierre ? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. À un moment donné, il a commencé à. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Il a commencé à regarder à gauche et à droite. Et il a fait un plongeon. Le Seigneur a récupéré. Mais plein de choses comme ça, plein d'événements, plein d'expériences extraordinaires qu'ils vont vivre avec Jésus pendant toute cette première période. Et là, Pierre ainsi que les disciples vont marcher sur le plan spirituel, sur les plus hauts sommets. Mais on le voit maintenant, nous allons y arriver, on s'aperçoit que les choses vont commencer à prendre une tournure particulière dans les épisodes suivants de sa vie. Vous savez, c'est un petit peu comme dans notre vie spirituelle, lorsque nous découvrons la foi, lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, lorsque nous nous engageons, eh bien on va dire que c'est un peu la lune de miel. Hein? Tout est beau, tout est heureux, etc. Et assez rapidement, quand ce fut le cas pour Jésus, eh bien, on est éprouvé. On vit, on est au contact, hein, avec la vie réelle de la foi. Là commencent les choses sérieuses, on va dire, sur le plan spirituel. Et ce fut le cas aussi pour Pierre et les disciples. Et là, dans Matthieu 16, il y a une discussion qui s'engage avec le Seigneur. Et là, Jésus dit à ce propos, par rapport à tout ce qui se dit autour de lui, à sa personne, parce qu'au milieu du peuple juif, les gens sont dans l'étonnement, dans le questionnement par rapport à ce personnage particulier. Et voilà ce que Jésus dit aux hommes. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Première déclaration de Pierre, encore lui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas merveilleux ça? Et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas encore Pierre. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et cela, comme nous l'apprend l'évangile de Matthieu, dans la bouche de Jésus, et bien cette déclaration de Jésus est suivie de belles promesses, et concernant notamment Pierre, pour la suite de leur avenir. Mais alors que le Seigneur leur annonçait dans la suite tout ce qu'il devait souffrir, sa mort et sa résurrection, la Bible nous apprend que Pierre se mit à le reprendre en lui disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Jésus, dans la foulée, de lui répondre « Arrière de moi, Satan, tu Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et nous voyons ici, frères et sœurs, un Simon Pierre qui, dans un premier temps, est le vase de la révélation de Dieu, devenir l'instant d'après la bouche du diable, son opposition à la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire que Jésus devait mourir à la croix pour notre rédemption, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions un jour être réconciliés avec Dieu. Et un peu plus tard, après le dernier repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus leur annonçait encore avec force de paix son arrestation qui devait être pour eux, là il le précise, une occasion de chute. Une fois de plus, nous avons pu noter la réaction de Pierre, pas les disciples, c'est Pierre qui réagit pour eux. La réaction de Pierre qui répondait, même si tu étais pour tous une occasion de chuter, tu ne seras jamais pour moi. Déclaration merveilleuse, extraordinaire. Mais le Seigneur lui répondait en disant, je te le dis en vérité. Souvent quand Jésus utilisait je te le dis en vérité, c'est que c'était une affirmation qui était sur le cœur. Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le corps chante, tu me réuniras trois fois. Je crois que n'importe qui, après avoir entendu quelque chose comme ça, se serait senti écrasé. Mais pas Pierre. Il continue en disant, il en rajoute, même s'il me fallait mourir avec toi, tu peux jusqu'au bout, mais je suis prêt à mourir, je ne te renierai pas. Et la Bible nous dit que tous les disciples diraient la même chose. Ah, ça devait être un véritable conseil. N'est-ce pas merveilleux ces déclarations? Je crois que parfois il nous arrive, frères et sœurs, même lorsque nous chantons des cantiques, de faire de prendre des engagements. Je ne dis pas que nous chantons, je ne parle pas d'ici, de manière générale, comme ça, du peuple de Dieu, de chanter des cantiques un peu de manière désinvolte. On a l'impression que parfois, ce n'est pas qu'on ne sait pas ce que l'on chante, mais est-ce qu'on mesure pleinement la portée des paroles que nous chantons? Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est une réalité dans notre vie spirituelle? Et je crois que nous devons être conscients de cela. Les cantiques chantés parfois de manière désinvolte. Parce que ce sont des engagements que nous prenons. Ce sont des choses que nous disons en lien avec la gloire de Dieu, évidemment, en lien avec nous, etc., etc. Mais je crois que c'est important de prendre conscience de ce que nous chantons, de ce que nous disons, de ce que nous proclamons. Bien évidemment, nous sommes dans la joie. Je ne veux pas dire que nous chantons tous de manière désinvolte, puisqu'il s'agit ici dans la communauté, je ne veux pas parler de ça. Mais si, en d'autres lieux, j'ai pris conscience, connaissant les personnes, connaissant les situations. Et je crois que c'est important ça, de chanter le dimanche, de rendre à Dieu toute notre louange et notre adoration, comme je le sais, de manière générale parmi nous, en esprit et en vérité. Alors, Luc, dans son évangile au chapitre 22, note une mise en garde supplémentaire de la part du Seigneur à l'égard des disciples, et encore de Pierre en particulier. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, en particulier, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire revenu, à retourner dans une direction, tu prendras la bonne direction, tu affermiras tes frères. Et qu'est-ce à cause de l'audace de Pierre, son manque de réalisme par rapport à ses engagements, ses emportements, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le Seigneur s'adresse de manière particulière à lui. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Et fort heureusement, bien aimé, nous sommes aussi, encore aujourd'hui, au bénéfice, bien évidemment, de l'intercession de Jésus auprès du Père, mais aussi de celle de la personne bénie du Saint-Esprit, parce que parfois nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans vos prières. C'est une grâce infinie. Afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu seras revenu, c'est alors là que tu affermiras tes frères. Alors, Est-ce que le Seigneur lui fait la morale, frères et sœurs? L'a-t-il sermonné? L'a-t-il exhorté à se repentir de suite? Ben nous, on l'aurait fait. Hein. Parce qu'on est tellement pris par cette grande spiritualité, le Seigneur ne l'a pas fait. Matthieu ne mentionne pas cela. Il se contente de l'avertir. Il se contente de le mettre en garde. Et parfois, Dieu nous parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. La Bible nous dit que l'homme n'y prend pas garde. Hein, Dieu ne parle jamais en vain. Dieu nous parle. Et c'est à nous d'écouter, afin que cette parole elle vienne dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'elle soit agissante. Rien de tout cela. Nous l'aurions certainement fait. Jésus s'est contenté de l'avertir en le mettant au garde. Je crois que c'est la pédagogie de Dieu. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour délivrer aussi le Seigneur. Je crois qu'il était nécessaire, au travers de cet avertissement, que Pierre lui-même, avec l'échec qui arrivera un peu plus tard, prenne conscience de sa spiritualité, de son état spirituel, réel devant Dieu, et de la légèreté de son engagement vis-à-vis du Seigneur. Vous savez, c'est comme en amour. Souvent, les paroles ne suffisent pas. Il faut plus que des actes. Il faut plus que cela, il faut des actes pour les concrétiser. La Bible nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et à les mettre en pratique. Alors, nous le verrons avec l'arrestation du Seigneur Jésus. Eh bien, c'est l'heure du test. La fermeté de leur foi, et qu'ils étaient prêts à mourir pour Jésus, de leur engagement de Pierre et des autres disciples, doit être mise à mal. Les événements, comme on le voit dans l'évangile de Jean, vont aller très vite. Et c'est Gethsémani qui se profile. Tout va basculer rapidement. Et là, alors que Jésus se recueille, va prier, les choses sont difficiles. Et je crois que c'est peut-être le... D'ailleurs, on ne le voit pas. C'est là, ce moment, un moment grave, où il savait déjà qu'il allait devoir affronter la mort, affronter la crucifixion. Mais ce qui était le plus dur pour lui, c'est qu'il doit être en mesure de porter, lui, le sein de Dieu, tous les péchés de l'humanité sur ses épaules. Et on voit, dans le jardin de Gethsémané, eh bien, ce combat, on voit cette lutte, on voit Jésus qui est là, qui bloque devant l'obstacle, en disant, vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai dit que Jésus était soumis en tout à la volonté du Père. Et c'est la seule fois qu'il va rechigner devant l'obstacle, parce que c'est tellement dur qu'il doit lui arriver. Pas seulement la question physique, la crucifixion qui était l'un des supplices les plus cruels de l'époque, le plus terrible, mais c'est ce qu'il devra porter sur ses épaules. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, la coupe qu'il devra boire, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et par trois fois, le Seigneur va faire cette prière auprès de Père. Mais il était dans une telle intensité que la Bible nous dit qu'il sortait de ses foies comme des grumeaux de sang. C'était la réalité. Et c'était à ce moment-là, le moment le plus grave, ce moment que Jésus attendait. C'est la raison pour laquelle il était venu sur cette terre, pour mourir pour nous, pour faire l'expiation de nos péchés. C'est à ce moment-là le plus grave de sa vie terrestre. C'est à ce moment-là qu'il comptait certainement sur ses disciples. Il avait pris Pierre avec lui, Jacques et Jean pour le trio. Il les avait pris à part. Ils étaient tous là à ce moment-là. Mais il les a pris à part pour venir prier. Et lorsqu'il reviendra, après avoir prié une première fois, il les trouvera endormis. Et Jésus leur dira, vous n'avez pu prier une seule heure. Et pendant trois fois. Alors, on peut considérer qu'ils étaient fatigués par les événements, ils étaient fatigués, ils étaient endormis, fatigués par simplement, on dit avec la journée qui était assez chargée, je le sais. En tout cas, Pierre, encore avec ses disciples, avec ses compagnons, eh bien, n'a pas été au rendez-vous, n'ont pas assumé leur rôle, alors que Jésus, eh bien, comptait véritablement sur eux. Et la leçon qui ressort aussi dans ce que Jésus dira, il dira que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez c'est prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et là, sans cause, c'est un avertissement de la part de Dieu, de Jésus par rapport à ce qui va venir plus tard. Frères et sœurs, eh bien, c'est vrai que la bonne volonté ne suffit pas. Et il faut bien plus que cela pour marcher avec Jésus. Alors, on n'est pas même de critiquer Pierre, on aurait fait certainement plus mal que lui. Mais son cheminement est là pour nous éclairer, pour nous encourager, peut-être pour nous aider à reprendre une autre direction, peut-être pour nous reprendre, nous appeler à nous ressaisir ce matin devant Dieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là, on le voit rapidement, l'arrestation de Jésus. Pierre qui prend son épée, qui coupe l'oreille de Malchus, etc. Jésus qui arrête un petit peu toute la scène. Et là, il y a tout ce cheminement, il y a tous ces éléments qui s'enchaînent par rapport à l'arrestation de Jésus, par rapport à ce pseudo-procès, et tous ces événements eh bien, qui vont conduire ce Seigneur Jésus eh bien, à... Nous voyons, les évangiles nous parlent aussi, bien évidemment, ce que Jésus avait prédit, et bien sûr, va se réaliser, c'est le triple reniement de Pierre. Autant il avait été averti, autant il avait entendu. Et là, on lui avait annoncé Jésus, et bien Pierre, à trois reprises, va renier le Seigneur de gloire, hein, ce Seigneur à qui il avait dit, bien, nous sommes prêts à mourir avec toi. Et bien, Jésus avait dit, il avait cité une prophétie justement, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et ce fut le cas de Pierre et des disciples bien qui vont s'enfuir au Christ. Lorsque Pierre reviendra pour assister de loin à ce qui se passait, et bien c'est à cette occasion et bien qu'il reliera par trois fois le maître jusqu'au moment où bien le coq va chanter. Alors je crois que il a dû regretter de ne pas avoir pris en compte les avertissements de la part du Seigneur. Et là, la Bible nous dit que lorsqu'il va voir Jésus qui passait dans le prétoire, eh bien, suite à cela, il va pleurer. Amen. Il s'est senti certainement comme un misérable, comme un être méprisable, mais il n'avait pas pris en compte les avertissements du Maître. Et c'est ainsi. La situation était devenue celle-ci. Et là, il avait renié, eh bien, le Seigneur. Alors, il était nécessaire, je pense, qu'il fallait qu'il passe par là. Comme je disais tout à l'heure, pour qu'il prenne conscience de la réalité de son attachement, de son amour pour Jésus. Et là, bien évidemment, la suite du récit, nous apprend dans les évangiles que le Seigneur ne va pas le laisser tomber. Il ne va pas le mettre de côté. Judas avait trahi Jésus, il est parti se prendre. Il aurait pu être au bénéfice du pardon de Dieu s'il s'était repenti Judas. Pierre s'est repenti, et là on voit que Dieu le Seigneur ne laissera pas de côté son disciple. Il ne va pas le rejeter, il ne va pas le mépriser, il ne va pas le disqualifier. Mais les événements nous apprennent que plus tard, eh bien, il va lui tendre une perche. Et cette perche-là, il va lui tendre, c'est un événement qui est assez qui est magnifique, je pense, dans cette discussion que nous voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, vous connaissez ce passage, qui est un passage extraordinaire. C'est à ce moment-là que, après plusieurs apparitions à ses disciples, là, on arrive vers la fin, que là, Jésus, alors qu'ils sont en train de pêcher, hein, ils reviennent de lui, et puis là, il est au bord du lac. Il est au bord du lac, et là, il a préparé du poisson à manger pour les disciples. Alors, lorsqu'ils virent, les disciples arrivent, et donc, Jean, chapitre 21, pardon, verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre, pour lui, monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait tant, le filet, ne se remplit pas. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain, leur donna, il fut de même du poisson. Voilà. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et là, on arrive à cet entretien de Jésus avec l'apôtre Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit suite à Simon Pierre, c'était le moment, c'était l'occasion que Dieu avait permis. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci, les disciples? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Jean nous apprend une chose. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Alors ici, dans le texte en français, ça ne ressort pas trop. Vous savez qu'en grec, il y a plusieurs mots pour parler d'aimer. Il y a deux mots, agapao, qu'on utilise souvent en lien avec le Seigneur, utilisé aussi pour les disciples. Agapao, qui signifie un amour fort, un amour profond, un amour véritable, mais un amour constant, qui ne varie pas, qui ne change pas en fonction des circonstances. Et fondamentalement, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi. Vous suivez? Alors, ici, Jésus, les deux premières fois, utilise ce mot-là. Mais Pierre, chaque fois qu'il répond, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, il utilise le mot filéo. C'est un amour, une amitié entre deux personnes, etc. Donc c'est fluctuant, hein, ça, c'est pas intangible, ça bouge, c'est en mouvement, etc. Ça va à la même profondeur et tout. Et par trois fois, Pierre dira, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais c'est de cet amour-là. Alors ce que le texte ne fait pas ressentir en français ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour la troisième fois, lorsque Jésus va utiliser le mot aimé, les deux premières fois, ça sera agapao, et la troisième fois, il va utiliser le même verbe aimé que Pierre. Simon, filio, m'aimes-tu? On a l'impression ici et bien que le Seigneur se rabaisse et qu'il se met à la hauteur de son disciple. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous dire? Que même si tu n'es pas capable de m'aimer de cet amour constant, profond, intangible, cet amour qui se donne et qui se donne, eh bien tu pourras quand même m'aimer de cet amour amitié. À la limite, ça me suffirait pour l'instant. Et la pierre est attristée. De ce que Jésus, la Bible nous dit, pour la troisième fois, eh bien, lui est posé cette question. Il est vrai qu'ici, il est conscient de son intimité. Parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais les trois questions que Jésus pose là, ce sont trois questions qui sont en rapport avec les trois réunions de Pierre. C'est Pierre et les autres qui avaient dit avant là, tous les événements qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Et de quelle manière s'était traduit, eh bien, son amour pour Jésus? Eh bien, il avait tout simplement renié. Et si Jésus, par trois fois, lui pose la question, c'est en lien avec les trois fois où Pierre a renier le Seigneur. Mais Jésus nous tend la perche ici. Jésus veut donner l'occasion à Pierre eh bien, de se réconcilier déjà avec lui-même. Le choix de Pierre ne devait pas être réjoui, il devait être accablé par rapport à ce qu'il avait fait, sa trahison. Et il veut aussi le réconcilier avec lui, Jésus. Et je crois qu'il est important de cette manière-là eh bien, que Dieu eh bien, parfois se s'abaisse à notre niveau, par rapport à notre capacité d'aimer, par rapport à notre capacité de percevoir, notre capacité de faire les choses qu'il attend de nous. Et lorsque Jean écrit plus tard, vous savez que Jean, c'est lui qui le rapporte son récit, Jean, il a des trois, il a été témoin de ces paroles-là. Et plus tard, il écrit, et je pense que c'est en rapport avec cette scène, dans sa première épître, hein, de Jean, vous savez que Jean, c'est le disciple de l'amour, il en parle beaucoup. Son évangile, mais notamment dans la première épître, en lien avec l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, etc. etc. Et c'est lui qui plus tard eh bien, va développer cette question. Mais il écrira, je pense que c'est en lien avec cet événement dont il a été témoin, cette discussion que Pierre a eue avec Jésus. Et voilà ce qu'il dit, il écrira plus tard, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et que nous. N'est-ce pas merveilleux? Ce Dieu qui nous aime et qui nous relève, quel que soit notre endurcissement, quel que soit notre égarement, hein, quel que soit aussi notre inconscience sur le plan spirituel, eh bien, il est toujours prêt à nous relever, à nous rétablir et à nous restaurer dans la mesure où nous nous repentons. Alors, c'est dans la difficulté, frères et sœurs, que les leçons sont les mieux apprises et sont décisives pour la vie. C'est pour ça que Jésus ne l'a pas remis en place, il l'a averti simplement. Il était nécessaire que Pierre, dans sa vie spirituelle, que parfois le Seigneur permet certaines choses pour nous, afin qu'il prenne conscience de son état spirituel et de la réalité de son engagement avec Jésus. Pierre était chancelant dans sa foi et monté de maturité. Le Seigneur fait Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Pierre. Le Seigneur voulait faire de ce Simon, fils de Jonas, un quoi? Une pierre. Oh. Jésus est un pierre angulaire, bien évidemment, quelqu'un de stable, de solide à l'avenir et sur lequel il pourrait compter plus tard. Et je crois, frères et sœurs, c'est ce qu'il veut faire aussi de chacun, chacune d'entre nous. Rappelez-vous, vous avez un grand défi devant vous là, qui vous attend. Et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes stables, matures, qui encouragent les autres. Dieu veut faire de vous des mères dans la foi. Dieu veut faire de vous des pères dans la foi. Et ça, c'est important. Dieu compte sur vous, mais il veut faire de vous, vous avez des habiletés déjà, mais il veut faire de chacun de nous des hommes et des femmes stables, matures, qui soient une bénédiction au sein de la communauté. Alors, il est bon de se rappeler que, quelles que soient les erreurs commises, hein, qu'on a pu faire, bien, le Seigneur donne la possibilité à chacun de pouvoir se rattraper, de pouvoir se repentir, et le Seigneur nous restaure, et ensuite il nous renvoie hein, dans la vigne, il nous renvoie dans son travail. C'est ce que le Seigneur a fait avec Pierre. Alors, quels que soient les moments difficiles par lesquels nous avons traversé dans notre vie, nos propres reniements, nos propres retraites, et il est peut-être bon pour nous ce matin, eh bien, de nous relever, encourager, fortifier à tous égards pour reprendre le chemin de la volonté de Dieu, le chemin du salut. Alors, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie tranquille, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un long apprentissage. Souvenez-vous que Jésus, que Dieu a mis 40 ans pour former Moïse, pour qu'il puisse être à même d'exercer, d'assumer la responsabilité que Dieu lui a donnée. 40 longues années dans le désert et dans la solitude, apprendre à garder des moutons et des chèvres. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Et c'est à partir de là, une fois préparé, que Dieu va m'envoyer pour la mission ô combien difficile et importante qu'il devra assumer. Vous savez, frères et sœurs, avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est un petit peu c'est du fast-food, quoi. Hein? C'est du fast-food, là. C'est du rapide, il n'y a pas de rien de fast-food. Hein? C'est pas nécessairement meilleur. Hein? Ou c'est un peu la génération Kleenex. Hein? Mais par rapport aux engagements, on prend, on se mouche et on balance. Hein, les engagements parfois que les uns envers les autres, etc., envers Dieu, enfin je ne sais pas, quelle que soit la nature des engagements. Voilà. Donc nous sommes appelés nous-mêmes à nous engager sur le chemin de la vie, sur le chemin du salut, sur le chemin de la volonté de Dieu. Alors, Dieu, ce que Dieu veut faire, le Saint-Esprit particulièrement, c'est comme l'exemple de Pierre, au travers des difficultés, au travers des situations, il veut nous façonner. Une image qui est très belle dans le Saint-Testament, Dieu envoie Jérémie, on voit au chapitre 18, Dieu lui dit, va dans la maison du potier et je te montrerai ce que je vais faire avec le peuple d'Israël. Là, Jérémie arrive là-bas, il voit le potier qui travaille la pâte, l'argile, ça ne marche pas, il la refait, etc. Et là, il y a tout un enseignement qui est là. Et je pense, frères et sœurs, eh bien, dans notre vie spirituelle, nous sommes aussi comme l'argile entre les mains du potier qui est Dieu. Et ça, nous devons prendre conscience de cela. Parfois, ce n'est pas facile. Alors, l'argile, je m'étais bien renseigné là-dessus. Bon, aujourd'hui, on a d'autres méthodes, mais la méthode ancienne, peut-être que c'est la vraie, etc. En tout cas, c'est une méthode qui a toujours existé. L'argile est donc le produit de la décomposition de certaines roches. Celles-ci ont été érodées et dissoutes par le long travail des eaux. Ça prend du temps pour avoir de l'argile, mais aussi du temps. Mais il faut se rappeler, évidemment, aussi, frères et sœurs, que le temps est un facteur important dans notre vie spirituelle. C'est aussi un outil précieux entre les mains de Dieu. Dieu travaille avec le temps. Et puis évidemment, Dieu peut nous changer un éclatement dans notre loi, mais Dieu ne nous force pas. Dieu veut que nous exercions notre liberté, mais aussi les conséquences qu'on veut. Alors, il est ici, il faut se rappeler que le temps est un facteur important. Donc la roche est devenue argile. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué?
Non.
Oh là, je m'en fais convaincu. Moi, je termine par ce qui peut se passer. La roche est devenue argile, vous allez savoir pourquoi je vais vous parler de ça. Et une fois extrait d'une carrière, celle-ci arrive chez le potier et subit une série d'épreuves. Elle est mise à sécher, je dis que c'est l'ancienne fois. Puis passée, royée, il y a des termes qui sont quand même importants, hein, ce qui nous concerne, noyée, je ne parlais pas des hommes de la tête, bon. Et enfin filtrée de toutes les impuretés qui pourraient s'y trouver. Rappelons-nous, tout son argile, entre les mains du potier. Débris de racines, etc., etc. Elle est ensuite raffermie et malaxée. C'est tout un travail d'élaboration. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, on a des moyens qui pivotent. Pour terminer, elle doit reposer à cet état, voilà, je fais ma méditation si vous n'écoutez pas, à l'état dans un lieu humide. Chaque état du processus de préparation est importante et doit être respectée. Chaque phase, chaque étape de notre vie est importante. Lorsque nous étions à la trois phases de notre vie spirituelle, comme lorsque nous voyons dans la vie autour de nous, l'enfance, l'adolescence et la maturité. Et nous sommes appelés à croître, frères et sœurs, et ne pas arrêter toute notre vie des bébés spirituels. Ne pas rester notre vie, toute notre vie des adolescents spirituels. Il y a des personnes, je ne parle pas d'ici, mais évidemment, d'autres lieux, mais des personnes qui, ça fait des 30 ans qu'ils sont dans le Seigneur, 30 ans qu'ils sont dans l'Église, mais on a l'impression que ce sont des enfants à la fois. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Il faut prier pour eux, bien évidemment. Mais nous sommes appelés à croître. En tout cas, il y a plusieurs étapes dans notre spiritualité. L'étape d'enfance, d'adolescence et l'état d'âge adulte. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Alors, nous avançons bien évidemment pas à pas avec l'aide du Seigneur ici. Alors, une fois ce travail achevé, l'argile est devenue de meilleure qualité et peut-être enfin utilisée. Chaque mot, prenez-y un point, bien aimé, parce qu'il s'agit de mots. Avant d'être jetée sur le tour pour être façonnée, elle doit d'abord être battue. Et c'est la dernière phase de la préparation seulement. C'est important car il faut qu'elle soit malléable. Nous avons du mal à être malléables dans le domaine. Bien aussi qu'ils sont dans le problème, avec les avertissements. Mais on n'aurait pas fait mieux. Et ça, c'est une qualité qui est importante. Être malléable dans le domaine. Car il arrive que l'argile résiste parfois à la pression de ses doigts et que le vase de ce fait-là vient à avoir un défaut. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Le potier recommence. Arrive ensuite la dernière étape, c'est celle de la cuisson. Et peut-être une étape déterminante, là, le vase doit passer enfin par la fournaise avec une montée en température qui transformera ses molécules carrément translucides de tout à l'intérieur. Et le durcira. Il deviendra de ce fait étanche et résistant et prêt. Bien aimé, comme pour Pierre et les autres, pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, tous ceux qui ont eu des hommes et des femmes fidèles, ils sont passés par des moments difficiles, ils ont eu des cheminements difficiles, mais ils sont arrivés au but par la grâce de Dieu. Ils ont toujours regardé à Jésus. Nous ne devons pas baisser les bras. Dieu, en tout cas, procède de la même manière que ça avec nous. Il nous a retirés de la carrière de ce monde. Il veut aussi enlever de nos vies toutes les impuretés. Ça fait partie du processus. Il veut également nous rendre plus solides en nous faisant passer par le feu de l'épreuve, afin que nous soyons devenus aussi imperméables, c'est-à-dire insensibles, indifférents à quoi ? Choses et résistant dans l'épreuve. Voilà le plan de Dieu pour notre vie. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez des épreuves, des difficultés. Continuez à marcher, continuez à faire preuve de foi, mettre toute votre foi dans le Seigneur. Alors pourquoi Dieu agit-il de cette manière-là? Et là, il y a une image qui est très belle, c'est ce que Paul reprend lorsqu'il écrit à Timothée. Pourquoi Dieu procède-t-il de cette manière-là? On vient avec le vase justement. Parce qu'il nous destine tous à être des vases d'honneur de Timothée de vin dans sa maison. Et quel que soit, Paul dit qu'il y a deux types de vases dans une maison. Il y a des vases d'usage vil, boulot, etc., etc. Et l'autre type de vase, c'est des vases d'usage d'honneur. Ce sont des choses que l'on expose. On met en avant, parce que c'est un plus grand valeur. Dieu, frères et sœurs, nous destine tous à être des vases d'honneur. Oui, toi, mon frère, toi, ma sœur, qui pense que tu n'y arriveras jamais, Dieu te destine à être un vase d'honneur dans sa maison. Quelles que soient les capacités que tu as et quelle que soit la tâche que Dieu a prévue pour toi, c'est ce que Dieu veut. Alors, ne nous décourageons pas. Allons de l'avant. Regardons à Jésus. Rappelons-nous de Pierre. Il y a eu bien évidemment des hauts et des bas. Il y a eu des difficultés. Et Pierre, on le voit complètement transformé à la Pentecôte. C'est lui qui prendra la parole. Et qui là, devant à peu près 3000 personnes, vient, il va prêcher un Jésus mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Alors bien évidemment, il y a eu un changement. Tu es Simon, fils de Jonas, et tu t'appelleras. Et le Seigneur va donner un nouveau. C'est bien ça, frères et sœurs. En fonction de ce qu'il était appelé à être et à vivre. Et j'aimerais simplement terminer par ce texte-là, en parlant de ce dont. Enfin, c'est une parole que Jésus adresse à l'église de Saint, je crois, de Pergame. Dans cette parole que le Seigneur nous laisse ce matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Ça se passera là. Pour l'instant, allons-y pour le Seigneur. Amen. Est-ce que j'étais un peu en ce moment?